Vous êtes avec SBS French.
Les principales actualités de ce jeudi 15 octobre 2020. En France, Emmanuel Macron annonce un couvre-feu à partir de samedi en région parisienne et dans 8 autres métropoles. Nouvelle journée de protestation en Thaïlande où la jeunesse réclame une réforme de la constitution et le départ du Premier ministre. La Thaïlande où actuellement l'armée possède de très larges prérogatives. Et puis en Australie, journée décisive pour Gladys Berejiklian. Après avoir reconnu qu'elle avait eu une relation intime avec un ancien député soupçonné de corruption, il n'est pas exclu que la première ministre de Nouvelle-Galles du Sud remette aujourd'hui sa démission. L'Île-de-France et 8 autres métropoles françaises vont donc être placées sous couvre-feu à partir de ce samedi et pour une durée d'au moins 4 semaines, alors qu'en France, le coronavirus regagne beaucoup de terrain, plus de 100 morts, près de 200 admissions en réanimation et plus de 20 000 nouveaux cas ont été recensés au cours des 24 dernières heures. C'est le président Emmanuel Macron qui a annoncé la mise en place de ce couvre-feu hier soir à la télévision. Il a en revanche, pour l'instant, écarté l'idée d'un reconfinement, mais aussi précisé qu'il n'y aurait pas non plus de restrictions sur les déplacements, ce qui signifie que les Français pourront malgré tout partir en vacances à la Toussaint. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention sur TF1 et France 2.
Nous n'avons pas décidé de réduire les déplacements entre les régions. Là aussi, c'est un choix, parce que je pense que, comme vous l'avez dit, c'est un choix de ne pas infantiliser, mais de responsabiliser. Alors, et donc, ça veut dire qu'on n'empêche pas les gens de passer d'une région à l'autre, d'ailleurs concrètement, de partir en vacances. Mais on va leur demander de respecter des règles de citoyenneté pendant les semaines et les mois qui viennent. On sait que, quand on est dans des espaces qui sont ouverts, on peut prendre l'air. On sait que, quand on est, justement... Dans des lieux où on peut sortir, on lutte plus efficacement contre le virus. Donc, demander aux gens de rester chez eux dans un appartement et de ne pas aller dans un lieu de vacances, honnêtement, ce serait disproportionné et parfois contre-intuitif.
Et ce couvre-feu, il va bien sûr avoir des conséquences sur l'économie. Emmanuel Macron a donc également annoncé une série de mesures de soutien aux secteurs qui vont être les plus directement concernés par ces mesures. Décryptage avec Pauline Glaise de RFI.
Les restaurants, les théâtres, les cinémas. Emmanuel Macron suggère de reprogrammer les sorties pour aller plus tôt au théâtre ou au restaurant, justement. Mais en semaine, les clients pourraient avoir du mal à le faire coïncider avec leur agenda, car il faut aussi prévoir le trajet du retour, qui est parfois long en ville. Pour aider les établissements qui décideront de fermer, le chômage partiel tel qu'il était au début de la crise sera réactivé pour les secteurs donc de l'événementiel, de la culture, de la restauration ou du sport. L'État prendra en charge 84% du net des salariés, et ce jusqu'à 4 SMIC et demi. Dès la semaine dernière, le gouvernement avait d'ailleurs annoncé une telle mesure pour les secteurs déjà touchés par des restrictions administratives. Confirmation également le début des remboursements des prêts garantis par l'État sera décalé d'un an avec un échelonnement sur 5 ans. Et en vue d'éventuels dispositifs de soutien supplémentaires, des concertations locales seront organisées dès ce vendredi.
Et le coronavirus, il est également de nouveau très virulent en Grande-Bretagne. Le gouvernement vient d'ailleurs d'introduire une série de restrictions localisées. C'est par exemple actuellement dans la ville de Liverpool qu'elles sont les plus sévères, avec notamment la fermeture des bars et des salles de sport, et ainsi que d'autres types de commerces. En revanche, pour l'instant, Boris Johnson reste opposé à un reconfinement pour une durée de 2 semaines qui avait pourtant été réclamé par certains. C'est par exemple le cas du leader de l'opposition, Keir Starmer. Voici ce que lui a répondu Boris Johnson.
The whole point, Mr. Speaker, is to seize this moment now to avoid the misery of another national lockdown into which he wants to go headlong by delivering a regional solution.
Et une nouvelle journée de mobilisation hier à Bangkok, où depuis le mois de juillet, la jeunesse thaïlandaise réclame le départ du Premier ministre ainsi qu'une réforme de la Constitution qui, en l'état actuel, accorde de très larges prérogatives à l'armée et aux militaires. À Bangkok, la correspondance de Carole Izou pour RFI.
La tension est montée d'un cran aujourd'hui puisque les manifestants se sont retrouvés face à des centaines d'hommes en jaune, couleur de la monarchie. Beaucoup étaient des policiers en civil, facilement reconnaissables à leur coupe de cheveux, caractéristiques, rasés sur les côtés. Mais certains étaient aussi des habitants de la capitale venus témoigner leur soutien au gouvernement et surtout au roi de Thaïlande, comme Khun Somchai, un commerçant de Bangkok.
Nous sommes venus en famille pour défendre la monarchie, pour dire aux étudiants qui se rassemblent aujourd'hui, qui peut-être ne comprennent pas à cause de leur jeune âge, que la monarchie c'est la base de notre identité thaïlandaise. Et pour nous, les Thaïlandais, les propos qu'ils tiennent sur leur roi, ce n'est pas acceptable.
Des insultes ont fusé, des coups même ont été échangés entre les deux groupes, notamment au moment où sont passés des camions qui transportaient des manifestants grimés en souverain thaïlandais du passé. L'actuel souverain a traversé le site des manifestations en voiture, avec la reine au milieu des manifestants, dont beaucoup l'ont accueilli d'un salut à trois doigts levés, le signe de ralliement de ces manifestations. Une première dans un pays où le proche personnel du roi doit se prostrer à son approche. Les manifestants, qui pour éviter les violences ont dû se rediriger vers un autre quartier de la ville où ils se sont installés pour la nuit, restent fermes dans leurs revendications. Départ du gouvernement, nouvelle constitution qui offrirait moins de pouvoir à l'armée et réforme de la monarchie. Carole Izou, Bangkok, RFI.
Un camouflet pour l'Arabie Saoudite qui ne siégera pas au Conseil des droits de l'homme, cette institution onusienne qui est régulièrement critiquée pour compter parmi ses membres des pays au bilan désastreux en matière de droits humains, renouvelé cette semaine 15 sièges sur 47, la Chine ou bien encore Cuba en sont membres, mais pas l'Arabie Saoudite qui n'est pas parvenue à obtenir suffisamment de votes. Les explications de Nicolas Falaise pour RFI.
L'Arabie Saoudite a déjà été membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans le passé, mais elle échoue cette année en ne recueillant que 90 votes à bulletin secret parmi les 193 pays membres de l'ONU, là où par exemple la Chine a recueilli 139 voix, ce qui lui permet d'être élu. Plusieurs organisations de défense des droits humains se félicitent de ce message fort adressé à l'Arabie Saoudite, pays très critiqué pour les conséquences de son intervention militaire au Yémen, mais aussi pour la répression des opposants, à commencer par le journaliste dissident Jamal Khashoggi, assassiné il y a 2 ans derrière les murs du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Des militantes féministes saoudiennes sont par ailleurs toujours derrière les barreaux. Le revers est sévère pour le royaume qui ne ménage pas ses efforts pour promouvoir ses réformes et tenter d'améliorer son image. Ce sera encore le cas le mois prochain lorsque l'Arabie Saoudite accueillera un sommet virtuel des pays du G20 dont elle occupe la présidence cette année.
À New York, un hommage a été rendu hier soir à l'occasion de ce qui aurait été le 47e anniversaire de George Floyd. George Floyd, c'est cet Afro-Américain qui est mort le 25 mai 2020 lors d'une intervention policière particulièrement musclée et entièrement filmée. Un incident qui a déclenché une vague de manifestations dans tout le pays dénonçant les violences policières, en particulier à l'égard des Noirs. Parmi les personnes présentes hier soir à New York, plusieurs membres de la famille de George Floyd, et notamment son frère Terrence, qui sans surprise reste très affecté par le décès de son frère.
A lot of people ask me, you know, how you doing? Are you okay? And everything. I tell them, I'm maintaining, but I'm not okay.
That's right. That's right.
And the reason why I'm not okay is because my people not okay.
That's right. Preach.
I'll be okay when something called accountability
That's right.
Will happen.
Et la journée va être très longue pour la première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, alors que l'ancien député Daryl Maguire, avec qui elle a eu par le passé une relation intime qui a duré près de 5 ans, doit témoigner de nouveau aujourd'hui devant la commission anticorruption. Alors au-delà d'une erreur sur le plan personnel, Gladys Berejiklian dément toute forme de malversation. Pourtant, son ex-compagnon, donc Daniel Maguire, assure pour sa part avoir assuré en 2017 une rencontre entre elle et un promoteur immobilier, Joseph Allah, à Sydney, au Parlement de Nouvelle-Galles du Sud. Je vous propose d'écouter un extrait de cette audition.
The possibility that you would be able to introduce him or allow him to see the Premier by way of a drop-in,
yes.
Right?
Yes.
You, Mr. Allah, didn't want to see the Premier just to meet her. He wanted to discuss his planning issue with her. that was so frustrating?
That's what his emails and texts said, correct.
And that was the whole purpose of him coming to Parliament House on the 15th of November with his models.
Et le coronavirus, 6 nouveaux cas aujourd'hui dans le Victoria, en revanche aucun décès, et 11 nouveaux cas en Nouvelle-Galles du Sud, parmi lesquels 6 sont des cas de transmission communautaire. À ce sujet, le ministre de la Santé de l'État, Brad Hazard, a appelé ceux qui ont été testés positifs à être honnêtes vis-à-vis des autorités à propos de leurs déplacements, et ce, afin de faciliter le travail des autorités pour retrouver d'éventuels cas contacts.
We are not interested in any of your personal activities. We are not interested in other legal issues that you might have been involved in. We just need you, public health needs you to tell us the whole truth and nothing but the truth.
Et on termine comme toujours ce bulletin avec la météo de ce jeudi en Australie. 27 degrés et du soleil à Sydney, 25 degrés à Melbourne où on attend quelques averses dans la journée, des nuages à Perth où il fait 24 degrés, 27 degrés à Adelaide, du vent et de la pluie à Hobart où il fait 19 degrés, 27 degrés à Brisbane, grand soleil et 31 degrés à Cairns, 32 degrés à Darwin où le temps est aujourd'hui à l'orage.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.